On arrive à la fin de l'émission, c'est déjà le moment des petits ovnis là.
Ah oui.
C'était le moment musique très très différent, très original,
ouais.
Avec un groupe évidemment composé de membres de la même famille.
Ah oui.
Et cette fois-ci, on partait côté Amérique, plutôt Amérique latine,
avec oui, Amérique du Sud.
Corralones.
Los Corralones. On les a passés dans la spécialité d'une fois dans l'Ouest parce qu'ils nous viennent de la nation amérindienne Corralón au Mexique et qu'ils chantent en Nahuatl, l'une des 68 langues amérindiennes du pays. Et pourquoi on vous les présente à nouveau dans cette spéciale en famille? Eh bien parce que le groupe se compose de 5 frères, les frères Sandoval. Il y a Beto, Gabriel, Garcia, Marco et Victor Hugo. Oui, oui, c'est bien son nom.
Ça rentre pas. C'est vraiment une histoire de famille. Là.
Ah, c'est vraiment une belle histoire de famille. Courez les écouter, ça vaut vraiment le détour. Ils mélangent du hard rock bien lourd avec des chants traditionnels amérindiens et des instruments traditionnels précolombiens.
Je vous avais dit que c'était le groupe OVNI de ouais. cette sélection. Et qu'est-ce qu'on a écouté comme titre alors?
Eh ben, on vient de s'écouter Yaotecatl, issu de leur dernier album en date, Heroes del Sol, sorti en 2020. Alors tu me disais en antenne que c'était un peu particulier.
Moi, c'est pas forcément très accessible, mais c'est original, c'est intéressant.
Ouais. Ouais. Moi qui grandis avec du thrash metal, je me rends pas toujours bien compte. C'est vrai que des fois c'est bien bourrin, mais moi j'aime beaucoup. Laissez-nous vos impressions sur notre page Facebook. On a aussi parlé de nos
réseaux sociaux. Ouais. Ouais, ouais.
Et on va se quitter sur un...
autre chose que du thrash metal.
Sur autre chose que de la thrash metal. Un peu de thrash talk, hein, on pourrait dire, mais un duo, pour conclure cette émission, d'une artiste qui a fait l'actualité de cet été.
Eh oui, en famille, avec Arthur H et Isia, frères et sœurs.
Eh oui, Isia, on avait déjà fait le tour de la famille Higelin dans notre spécial Fils et Filles 2, une émission qui date de novembre 2016, mon bon vieux Flo, où on avait passé Jacques Higelin, Arthur H et Isia. Isia qui a subi les foudres des censeurs dernièrement cet été, une info qui m'a laissé un peu chafouin, je dois le dire.
Ouais, tu vas nous raconter, effectivement.
Oui, parce que si vous n'avez pas suivi, Isia a été visée par une enquête pour provocation publique à commettre un crime ou un délit après un concert donné lors du festival Les Nuits Guitares à Beaulieu-sur-Mer. En fait, entre deux morceaux, elle avait fait une tirade où elle imaginait Macron transformé en piñata géante, se faire exploser la tête par le public à grands coups de batte. Alors, ni une ni deux, il y a des gens du public qui sont allés prévenir les gendarmes, mais sur l'instant, il n'y a même pas eu besoin de scandale sur les réseaux sociaux. Direct, ils sont allés voir les flics. Et du coup, les flics sont venus chercher Isia à la fin du concert en coulisses. Isia qui a pris la poudre d'escampette ou la poudre de perlimpinpin, pour faire référence à notre cher président. Elle s'est faite exfiltrer par son équipe dans son bus. Et apparemment, c'est pas si simple de l'arrêter dans son bus de tournée. Il y a une réglementation très spécifique, en tout cas. C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant l'article de Nice ce matin. Tu peux pas exfiltrer un artiste quand il est dans son bus de tournée.
Ah oui,
ce qui est bon à savoir. En tout cas, là, ça a bien rendu service à Isia.
Moi, je tourne dans une de chevaux. avec trois places. Je pense que je peux être exfiltré assez facilement.
Ah oui, bah, t'aurais pu être exfiltré par le maire de Beaulieu, hein, Roger Roux, affilié LR, indigné de ce qu'avait dit Isia, son adjointe à la culture aussi d'ailleurs. Et ils ont donc décidé de blacklister Isia de Beaulieu.
Je pense qu'elle s'en remettra.
Oui, elle s'en remettra. Enfin, sur les réseaux, je t'en parle même pas.
Non, mais de plus jouer à Beaulieu, mais oui, je j'imagine c'est que c'est pas évident à vivre quand même.
Un peu dommage pour les Beaulieusiens et Beaulieusiennes, je sais pas si on le dit comme ça. En tout cas, Isia s'est excusée après dans un article de West France pour assurer un peu cette France du premier degré. Alors, comme on peut plus rien dire, on a choisi de vous passer un live des frères et sœurs Higelin, Isia et Arthur H, en duo sur la scène des Victoires de la Musique en 2019. Mmh. Comme quoi, elle sait aussi faire, hein, un peu dans le consensuel, elle peut tout faire. Qui interprète tous les deux Je ne peux plus dire je t'aime,
reprise notamment au président Macron.
Tout à fait.
On peut pas lui déclarer notre amour.
Exactement. C'est une reprise du titre de leur père disparu un an plus tôt.
Évidemment.
C'est notre manière à nous de dire qu'on la soutient.
Ouais, c'est bien d'en parler.
Oui.
De finir sur cette année. Un peu triste, un peu folle.
Ah ouais, les mecs direct au concert, ils vont voir les flics.
Tellement symbolique de notre époque.
Oui, malheureusement, cette France du premier degré. Voilà. comment quitter là-dessus? Ça sera la fête le mois prochain.
Ouais, ce sera la fête le mois prochain avec les 10 ans de l'émission. Voilà, donc on aura un petit programme.
Ouais, on est encore dessus, on sait pas trop.
Ouais. Mais il y aura des surprises.
Il y aura
des surprises pour les fidèles auditeurs et auditrices que vous êtes.
Oui, c'est vrai qu'il y aura une belle surprise. Ce sera une émission un peu double.
Oui.
Puisqu'il y aura notre émission plus 5. Oui,
doucement. Voilà. Ne spoile pas. Non. Allez, on se quitte. Bah, donc, avec Arthur H. et Isia, c'était pour la spéciale musique en famille.
Oui, on se retrouve
le mois prochain, en octobre.
Oh, vendredi 13, mec. Ouh. Ça nous portera chance, j'espère.
J'espère, je pense. Vendredi 13 octobre pour la centième émission.
Non, pour les 10 ans. La 120e pour les 10 ans.
Putain, déjà.
La centième, on l'a déjà fait.
Oui, on l'a déjà fait.
Une belle émission.
Oui, une belle émission.
Autobiographie musicale.
Oui. Mélancolique.
Un peu mélancolique, ça.
Ouais.
On est des grands mélancoliques.
Ah oui. Ouais. Mais c'est bien. On en reparlera sûrement. Dans les 10 ans, on en reparlera.
Voilà, bonne soirée à toutes et à tous.
À bientôt.
À bientôt. Sur Radio Libertaire, bien sûr.
Bye.
Bye.
Je ne peux plus dire je t'aime. Ne me demande pas pourquoi. Je ne ressens ni joie ni peine. Quand tes yeux se posent sur moi, c'est dur.
Bonsoir, c'est le retour des Amis d'Orwell. Le retour des Amis d'Orwell à l'antenne après un petit moment d'absence. On vous propose ce soir une page d'archives. C'est une discussion autour du livre d'Aurélie Garand, Depuis qu'ils nous ont fait ça, paru en 2022 aux éditions du Bout de la Ville. Une émission diffusée l'année dernière, en décembre. Cela reste cruellement dans l'air du temps d'ailleurs, ce livre d'Aurélie, car Aurélie Garand, c'est la sœur d'Angelo Garand, abattue par le GIGN en mars 2017. C'était la première victime du fameux article permis de tuer, le 435-1, qui donne carte blanche aux policiers pour ouvrir le feu sous couvert de légitime défense. C'est exactement d'ailleurs ce qui a été motivé après l'assassinat de Naël. C'était à Nanterre, souvenez-vous, début juillet, après les révoltes qui s'en sont suivies. Le refus d'obtempérer est devenu évidemment l'excuse ultime de la police, c'est pas un scoop. Cette semaine encore, le 6 septembre 2023, c'était à Élancourt dans les Yvelines, un jeune de 17 ans qui roulait en moto s'est fait percuter par une voiture de la police nationale. Et d'ailleurs, un point d'agenda, mercredi 13 septembre, réunion publique organisée par un collectif de familles directement concernées par les violences du corps policier. Ce sont trois jeunes qui circulaient sur un scooter, qui ont été percutés, là encore, par un bolide banalisé de la BAC. Ça s'est passé en mai 2023, dans le 20e arrondissement de Paris. Donc les trois personnes ont été grièvement blessées et il y a donc une soirée de soutien Ça se passera à la Flèche d'Or, Paris 20e, rue de Bagnolet, à 19h. Voilà, replongeons-nous donc dans cette présentation qu'Aurélie Garand avait effectuée en novembre 2022 autour de son livre « Depuis qu'ils nous ont fait ça », et donc une émission diffusée pour la première fois en décembre 2022. Les amis d'Orwell, je vous rappelle, c'est un vendredi sur deux sur Radio Libertaire 89.4. Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des amis d'Orwell sur Radio Libertaire. Ce soir, on va parler d'un livre, ça s'appelle « Depuis qu'ils nous ont fait ça », paru aux éditions du Bout de la Ville et signé d'Aurélie Garand. C'est la parole d'une sœur, hein, la sœur de Angelo Garand. C'est l'une des affaires de crimes policiers les plus emblématiques de ces dernières années. Angelo a été abattu par un commando du GIGN le 30 mars 2017 dans la maison de ses parents à Sœur, près de Blois, dans le Loir-et-Cher. Angelo est la première victime d'un article de loi créé en janvier 2017 sous le quinquennat Hollande, un article du Code de la sécurité intérieure, le fameux 435-1, qui assouplit considérablement l'usage des armes à feu par les policiers et gendarmes lorsqu'ils ont le sentiment que la personne pourrait les mettre en danger. Et c'est donc cet article qui est brandi systématiquement maintenant lorsqu'une personne semble vouloir échapper à un contrôle de police. Aurélie Garand se bat depuis 5 ans donc pour son frère et sa famille. En 3 ans, le dossier judiciaire a été classé. Ça s'est terminé comme un non-lieu, comme dans beaucoup d'affaires. Et ce livre, eh ben, c'est sa vérité, sa rage et surtout sa colère. Aurélie est venue à Paris, à la librairie Le Mont en l'air, pour présenter ce livre. Alors on vous propose ce soir de diffuser quelques extraits de ses propos. Il y avait aussi Manu, son éditeur, à ses côtés, comme d'autres sœurs d'ailleurs qui se battent au sein du réseau d'entraide Vérité et Justice, des sœurs comme Awa Gay ou Fatou Dieng. Et d'ailleurs demain, samedi 3 décembre, c'est la sœur de Babacar Gay, Awa. Babacar a été abattu lui par la police à Rennes en décembre 2015. Alors à propos du livre d'Aurélie Garand, on va donc commencer par Manu, qui est donc responsable de cette maison, les éditions du Bout de la Ville. Manu qui va rapidement nous rappeler les faits du 30 mars 2017. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal que ce soit quelqu'un d'autre hein, qui rappelle ce qu'il s'est passé ce jour-là, car Aurélie ben, l'a déjà fait des dizaines de fois. Alors voilà, attention, le son est un peu difficile. On se retrouve pour une petite pause musicale dans environ 30 minutes.
Alors, le 30 mars 2017, il y a une brigade du GIGN qui intervient chez là où tu habites, en fait, avec tes parents, ton oncle, tes enfants,
ouais.
Voilà, pour neutraliser l'individu, Angelo Garand, qui donc était en fait en prison, à la prison de Poitiers-Vivonne. Il était en prison pour vol. Alors, je sais pas, il avait une peine de 4 ans, je crois, à faire, peut-être, un truc comme ça.
Bah, ça y est tombé après sur le dos. On l'a su quand il était mort.
Ouais, parce qu'en bon, en fait, il y a un truc avec Angelo, c'est qu'en fait, donc, ton frère, à l'âge de 22 ans, il est rentré en prison pour une conduite sans permis, je crois.
C'est ça.
Et qu'en fait, après, petit à petit, de peine en peine, donc conduite sans permis, délit de fuite, truc, puis après vol et ainsi de suite, en fait, entre ses 22 et ses 37 ans quand il est mort, il a fait 13 ans de prison. C'est ça. Donc en fait, il a eu une permission de sortie d'une journée au titre de maintien des liens familiaux. Donc une journée, c'est-à-dire il était à la prison de Poitiers, vous habitez à côté de Blois, donc ça veut dire 2 heures de train dans un sens et 2 heures de train dans l'autre, quoi. Donc sur une journée, bon, en gros il avait, je sais pas, 5 ou 6 heures à passer avec vous peut-être, ou 8 heures à passer avec vous, quoi. Et donc il a décidé de pas retourner à la prison, parce qu'il savait par ailleurs qu'il y avait d'autres peines qui allaient encore lui tomber sur le dos, quoi. Donc il avait une occasion de sortir et de pas y retourner, il a décidé de pas y retourner. Il a passé quelques mois à habiter dans sa voiture, à dormir un peu dans les chemins et tout, il passait chez vous de temps en temps comme ça. Les Condés étaient tout à fait au courant de ce qu'il faisait, parce que on est quand même on est vraiment en province, quoi, on est vraiment dans les régions. Donc en fait les gendarmes sont tout à fait au courant de qui est où, il a croisé les gendarmes maintes et maintes fois pendant les mois qu'il a passé un peu dehors. Sauf que ce jour-là, en fait, alors déjà la semaine d'avant, parce que ça c'est un truc important qu'on ne sait pas assez, en fait, la semaine d'avant, il y avait une fête qui était organisée, et en fait, on a appris après dans le dossier que les gendarmes avaient prévu d'intervenir une semaine plus tôt, quoi. Et ils sont pas intervenus parce qu'en fait, il y avait trop de gens là où tu habites ce jour-là. Donc, ils ont décalé leur intervention d'une semaine. En fait, ils étaient sur lui. Ils voulaient intervenir sur lui. Et donc, ce jour-là, le 30 mars 2017, il est venu manger à midi. Il a partagé un barbecue en famille, quoi, une grillade. Ouais. Donc, je sais pas, il y avait tes parents qui étaient là, il y avait ton oncle qui était là, il y avait ton frère qui était là et un de tes enfants qui était là. Mmh. Et donc, ils sont intervenus à 13h.
Ouais.
Ils sont rentrés chez vous. Il y a quelqu'un qui a réussi, je crois que c'est ton papa, hein, qui a réussi à...
il les a vus.
Qui a dit, il y a les Schmitt et tout. Du coup, Angelo a essayé de se cacher. Il est parti dans une petite remise qu'il y a chez eux. Et il s'est caché. Et donc, ils ont fouillé un peu partout. Ils ont fouillé toutes les caravanes, la maison, les trucs, tout ça. Ils n'ont rien trouvé. Puis à un moment, il y a eu un bruit dans la remise. Et donc, il y a cinq gendarmes, en l'occurrence. Cinq mecs du GIGN, ouais. Quoi, qui sont rentrés dans la remise. Et ils ont rafalé tout de suite, en fait. Et donc, ils l'ont abattu sur place sans qu'il ait eu le temps de bouger, en fait. Voilà, donc ça, c'était le 30 mars 2017. Je crois, dès le lendemain, le procureur donne la version officielle de l'État qui tient jusqu'à encore aujourd'hui. C'est que Angelo les aurait attaqués avec un couteau. C'est pour ça qu'il y a un couteau en couverture du livre, en fait. C'est que... C'est que le couteau, c'est un vrai enjeu, en fait, dans cette histoire. C'est qu'ils ont prétendu qu'il les a attaqués avec un couteau. Ce qui renvoie évidemment à l'imaginaire raciste profond depuis très longtemps du manouche qui attaque n'importe qui avec son schlaf, quoi. C'est pour ça qu'on a mis un couteau en couverture, qui était son couteau en l'occurrence à l'époque, puisqu'il aimait bien les couteaux, mais ça, c'était le sien. Et voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que toi, je crois, deux jours plus tard, en fait, t'as vu le procureur parler à la télé sur France 3, qui disait « Nous sommes venus interpeller l'individu Angelo Garand pour le ramener en prison. Il s'est rebellé contre les gendarmes, il les a attaqués. On a été obligés de le neutraliser. » Et donc, toi, t'as entendu parler ce mec et t'as tout de suite décidé de prendre la parole publiquement pour dire « En fait, ça n'a pas pu se passer comme ça, c'est pas possible, en fait. » Parce que tes parents étaient là, ton frère était là, ton fils était là. Et tout le monde a très bien vu ce qui se passait, c'est qu'ils ont entendu un bruit, ils sont rentrés dans la remise et ils ont rafalé, ils l'ont tué sur place. Quoi. Et voilà, donc t'as pris la parole deux jours plus tard. Après nous, du coup, on s'est rencontrés pour être transparents sur comment c'est passé et tout. Moi, je suis proche d'un journal qui s'appelle L'Envolé, qui est un journal qui relaie la parole des prisonniers. Et par ailleurs, j'habite pas loin de chez toi, quoi. En tout cas, je viens d'un endroit pas loin de chez toi. Et donc, je t'ai vu prendre la parole, en fait, sur Facebook ou YouTube ou je sais pas quoi. Et t'avais déjà une parole hyper claire, construite. T'avais déjà tout compris, en fait, sur ce qui était en train de se passer, sur comment l'État était en train de mentir sur les circonstances de la mort de ton frère et sur comment c'était la reproduction de plein de trucs qui avaient déjà eu lieu, en fait. Moi, c'est une parole qui m'a hyper impressionné. Donc, je suis allé très vite, je suis allé à la deuxième marche à Blois à la deuxième marche que vous avez organisée à Blois pour te rencontrer, pour dire la porte de l'envol était ouverte, quand tu veux, tu parles et tout. Et du coup, on a commencé à rentrer en contact comme ça. Je crois que tu as fait une première interview, je sais pas, on a dû faire deux, trois interviews pour l'envolé.
Ouais.
Et voilà. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça, donc il y a 5 ans. Et puis, après, c'est à toi de parler. Hein, quoi, ce que tu penses.
À la base, on n'est pas politisé, on n'est pas militant. Mais quand ils viennent tuer Angelo, déjà, ils ont mis 5 balles, mais ils ont visé les organes vitaux. Donc, c'est une exécution. Et il y a aussi ma famille, en fait, c'était comme si c'était eux les coupables. C'est eux qu'il a fallu qu'ils aillent faire une déposition. Alors qu'il y avait encore le corps de mon frère. Et quand ils ont fait leur déposition, mon père il a mis fin à la déposition parce que les dépositions aussi c'était pas sur ce qui s'était passé. C'était Angelo ceci, Angelo vous savez Angelo qui devait être en prison, il passait souvent chez vous et trucs. Et le procureur à la fin des auditions de mes parents et de ma famille, le procureur il vient et il dit toutes mes condoléances pour le décès de Monsieur Garangelo. Par ailleurs, j'espère que ça fera pas comme en 2010, les débordements, et il fait ça, en fait. Et en fait, en 2010, les débordements dont il parle, c'est le meurtre de Luigi Duquenet, un voyageur qui a été tué à une quinzaine de kilomètres de chez nous. Et à ce moment-là, la colère légitime, il se passe ce qu'ils appellent les émeutes. Du coup, les gens se révoltent. Et dans les médias, c'est les émeutes. Mais presque pas un mot, en fait. Enfin, pas un mot sur Luigi. Et en 2010 aussi, comme j'habite dans la région, je sens la peur des gens envers nous. Je sens que quand je vais à la pharmacie, tout le monde se retourne et me regarde. Et quand ils ont tué Angelo, déjà, on pouvait plus rentrer chez nous, mais ça, après, on l'explique aussi. On a juste le droit de rentrer pour prendre des affaires et encore mon frère, enfin. Mais on voit tout un dispositif se mettre en place. Et en fait, on voit encore l'histoire se répéter. Et après, il y a la vidéo du procureur. Et du coup, je me dis non. Faut répondre à ça. Il a pas le droit de dire ça. Il a pas le droit de dire ça sur Angelo et ma famille. Ils sont pas des menteurs et on mentirait pas en fait. On ment pas sur les morts. Même si Angelo il serait débattu avec un couteau comme ils prétendent, on l'aurait dit. C'est quand même des hommes du GIGN, c'est pas n'importe qui hein. Et de là, je fais la vidéo, mais pour le procureur et là je me souviens de Ziad Ebouna à ce moment-là. Et nous, j'ai jamais marché avant ça. Et je repense à Ziad Ebouna, ça me revient. Et du coup, c'est là que je parle de marche dans la vidéo. Et c'est là que j'ai le soutien qui arrive. On m'appelle et on me comprend. Et c'est du soutien. Et c'est grâce à tous ceux qui ont été là que j'en suis là aujourd'hui, en fait. Et aussi, après, dans le livre, j'explique la rencontre aussi avec Awa, Fatou. La première fois que j'entends parler Awa et Fatou, je le vis, pour moi, c'est tout frais. Ça faisait 10 ans pour la mine. Et en même temps, je le vis, hein, c'est tout frais. Mais j'ai mal pour eux. Et en même temps, on n'a rien besoin de se dire. Nous, on sait la vérité. Et on sait qu'on ira jusqu'au bout. Et depuis qu'ils nous ont fait ça, c'est tout ça en même temps aussi. Et dans depuis qu'ils nous ont fait ça, en fait, à partir d'un vécu, d'une vie, même quand j'étais petite, parce que du coup, ça parle de prison. Et, enfin, Angelo, c'était pas le premier de la famille qui a été en prison. Du vécu, on parle de prison, on parle de discrimination, on parle d'autres familles, on parle de notre force, on parle aussi psychologie, comment on élève des enfants, comment aux yeux des autres on se retrouve à être... On voit dans le regard des fois, je vois dans le regard des autres, ta façon de parler, t'es anti-police, t'es anti-système, donc t'es radical. Mais qu'est-ce qu'on nous a fait à nous? On nous a fait ça, et en plus, on n'a pas eu de procès. Mon frère, il a été atteint de 5 balles dans le torse, visé par des hommes du GIGN, et nous, on n'a pas eu de procès. Ma famille, c'est des menteurs. Mais jamais, jamais, je laisserai ça comme ça. Et pas avoir de procès, en fait, c'est que... En fait, Angelo, il n'est pas victime. Comme les autres, d'abord. Comme tous les tués par l'État, que ce soit en prison, par la police, ou par la gendarmerie, le GIGN, ou n'importe quel homme assermenté. En fait, eux, ils ne sont pas des victimes. On ne les considère pas comme des victimes. Et pourquoi, en fait, je me bats aussi? C'est parce que, en fait... Ils les considèrent pas comme des victimes. À la limite, à l'heure actuelle, je m'en fous de l'État. J'en ai rien à foutre. Mais c'est que ils veulent nous faire penser et ils font croire à une partie de la société que leur vérité c'est la vérité et que c'est totalement faux et que en fait, Angelo ceci ou ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais le problème c'est que maintenant en fait, ça peut arriver à tout le monde. Et un truc comme ça, le jour de la mort de mon frère. En fait, je le souhaite à personne. Parce qu'en fait, ce jour-là, quand ton frère, il meurt, c'est pas que ton frère, il meurt. je me suis retrouvée à dire quand Angelo il est mort. Mais en fait, je me reprends. J'ai pas à dire quand Angelo il est mort. Non, quand ils ont tué Angelo. Parce qu'Angelo il est pas responsable de sa mort. Et c'est tout un. En fait, depuis qu'ils nous ont fait ça, et ben c'est toutes ces questions-là, politiques, psychologiques, sentimentales et humaines. Faut pas qu'ils oublient en face que nous, on est humains. Et qu'en se battant en même temps, et ben on fait tout pour pas devenir des monstres comme eux, ils sont.
Peut-être juste, il y a deux trucs que j'ai oublié de dire, je crois. Bon, déjà, d'une. T'es identifié comme appartenant à la communauté des gens du voyage, comme on dit.
Ouais.
Voilà. Juste, voilà. Donc quand ils disent un gitan en cabale, en fait, c'est vraiment ça. Ils sont déjà sur cette lecture du truc, quoi. Ça. Et après, il y a aussi le truc que, en fait, vous êtes battu un peu pour essayer d'avoir un procès, en fait, que les gendarmes soient mis en examen, tout ça. Et que, en fait, vous avez été balayé à peu près en 3 ans de temps, je crois. Il y a eu une mise en examen. 6 mois plus tard, il y avait déjà un non-lieu. Suivi 3 mois plus tard d'un non-lieu confirmé en cour d'appel et après en cassation, je sais pas, peut-être un an plus tard, mais en tout cas ça a été ça a été plié hyper rapidement. Du coup, je sais pas, les familles de victimes, en tout cas de crimes policiers ou de crimes des gendarmes, il y a des combats qui sont d'habitude très très longs en fait pour essayer d'obtenir un procès et puis finalement il n'y a pas de procès ou le procès bon aboutit à pas grand-chose quoi. Vous en fait vous avez été balayé hyper rapidement, ça veut dire que le combat judiciaire en fait il a été réglé très très vite quoi. En 3 ans de temps, c'était terminé, en fait.
On a passé, ouais, les 3 étapes qu'on devait passer en France pour avoir un procès. Parce que quand on demande justice, on sait très bien qu'on n'aura pas justice. Nos frères, ils sont morts. C'est quoi la justice? Quelle justice on peut rendre à un crime? Pas vraiment. Mais ouais, ils nous ont balayés, mais ça, je le dis pas dans le livre, mais quel intérêt on a à nous balayer si vite? Parce que pourquoi? En fait, qui va se soucier d'Angelo? Qui va se soucier du gitan en cavale, comme ils décrivent, prisonnier, multirécidiviste? Ben, en fait, le truc, c'est que on a eu le premier non-lieu en 2018, en octobre 2018, sur la base d'articles de loi qu'ils utilisaient à chaque fois. Ben, en février 2019, ils ont été vite quand même, octobre-février 2019, on a passé le cap de la cour d'appel. Et c'est là qu'ils appliquent pour la première fois l'article de loi 435-1, le permis de tuer. Et en fait, au début de la lutte, je me dis, il faut pas que la mort d'Angelo faut que la mort d'Angelo serve à quelque chose. Et ce que j'admettrai jamais, c'est que la mort de mon frère sert à justifier d'autres morts. Parce que depuis 2017, depuis cet article de loi, eh ben, en fait, il y a une augmentation des tirs de 54%. Avant, c'était à peu près 17 personnes tuées. Maintenant, on est quasiment 26
par an.
Et c'est presque le double, quoi. Et en fait, on n'a pas le droit de laisser nous faire croire que tout ça, c'est normal et que de toute façon, c'est la loi. En fait, ils ont tué et en fait, pour moi, à la cassation, parce qu'à la cassation, ils n'ont même pas examiné notre pourvoi. Il a été non recevable. Ils ont tout mis à la poubelle. Ils ont mis ça à la poubelle. Et c'est ça, je l'ai amer, en fait. D'ailleurs, c'est leur procédure, ça s'appelle comme ça. Parce qu'avant d'intervenir le 30 mars pour tuer Angelo, j'ai appris par le dossier qu'ils ont reçu une circulaire qui leur expliquait justement cet article de loi. Je sais que les tueurs de mon frère, ils ont été mis en condition de foi. On leur a présenté un homme, déjà un gitan, en cavale, potentiellement dangereux, potentiellement armé. Et on leur instruit la loi-là le 17 mars. Le 17 mars, on apprend aux hommes du GIGN que, de toute façon, si voilà, ils sont revêtus, leurs uniformes, si ils pensent être en danger, eux ou un collègue, ou ils imaginent, même s'ils imaginent. Alors, c'est-à-dire que tout homme assoiffé de sang, il a qu'à s'engager à être GIGN ou policier. De toute façon, maintenant, c'est même pas dur pour entrer en police. Pour rendre comme ça, il y a des formations rapides, apparemment. Ils ont passé un truc comme ça. Et on peut tuer. On a le droit. C'est un droit de tuer. Alors, si c'est ça, la République et le grand discours qui veulent nous servir, la France, Et à mon avis aussi, le petit discours là politique sur le tout sécuritaire, attention, ça devient dangereux, ça devient dangereux. C'est plutôt dangereux pour nous parce qu'ils installent du coup ce genre de loi là qui font que qu'on peut se faire tuer. Et en l'occurrence, c'était Angelo, des premiers, enfin
le premier.
De ce qu'on sait, nous, c'est le premier en fait. Sa mort, elle a servi à ça, quoi. Et en fait, c'est un permis de tuer.
Moi, j'ai une question. Le livre, il parle aussi d'une deuxième contre-enquête. Peut-être qu'on peut en parler.
C'est vrai, parce qu'on a oublié tout à l'heure.
Ouais, on peut en parler. Ça, c'est le gros truc qui arrive. Ça, c'est... en fait, il y a un groupe qui s'est créé de contre-enquête avec de la reconstitution en 3D. Ça s'appelle le Génie. Et ils sont en train de faire un boulot monstre pour, à partir des éléments du dossier, c'est pas ce que nous on dit et truc, c'est à partir de ce que eux ils ont construit, et ben en fait on arrive à, ils arrivent à donner une version qui est beaucoup plus crédible et plausible que la version de la justice et comment on nous a donné des non-lieux, quoi. Comment on nous a balayé comme ça en 3 ans la justice. En fait, le groupe du Génie, il reconstitue la scène de crime. En l'occurrence aussi, la magouille de la scène de crime, parce que c'est ce qu'ils ont fait aussi. Parce qu'en ouvrant le dossier, on sait que mon frère, il tombe en fait en avant. Mais en ouvrant le dossier, je vois le corps de mon frère allongé sur le dos avec un couteau. Enfin, son couteau. C'est son couteau. Mon frère, il avait un couteau. Tout le monde a le droit d'avoir des couteaux quand même, mais quand même pas pour autant des meurtriers ou des assassins ou des agresseurs. Et déjà là, ça coince, mais le truc du Génie, c'est le gros truc qui va arriver. Quand on sait pas, on donne plus le timing, parce que là, on est en peaufinage du truc, et ça va être, c'est bien. Il nous faut des... En fait, c'est un outil, hein. Et un groupe d'enquête comme le Génie, c'est un outil pour la manifestation de la vraie vérité, quoi, qui est beaucoup plus véridique que leur vérité à eux, quoi.
Et du coup, il y a une vidéo 3D qui va sortir bientôt.
C'est ça. Il va y avoir la reconstitution de la mise à mort de mon frère, et où là, en fait, où le Génie a été travaillé. Même nous, moi en tant que sœur qui a ouvert le dossier, il y a des trucs qu'on voit pas parce que nous on est qu'une sœur déjà à la base. T'es pas militante, t'es pas avocate, t'es encore moins expert en balistique ou encore en contre-expert autopsie et trucs comme ça. Et en plus dans les dossiers d'affaires de crimes d'État, ils font tout en fait pour noyer la famille. Ou même les avocats, ou peu importe qui va mettre le nez dans le dossier, c'est à s'y perdre. C'est à s'y perdre, c'est à vomir, c'est à pas dormir des nuits. Et c'est à pas dormir des nuits, mais quand même, toujours ça appel. Parce que même dans leurs témoignages, dans leurs auditions, les tueurs et les menteurs, parce qu'ils étaient 5 dans la remise, et il y a 2 tireurs. Il y a 2 tireurs, mais il y a 3 menteurs, et puis en fait, qui c'est vraiment le tireur et tout, c'est ce qu'ils disent, hein. Et en fait, avec ces outils-là, comme le Génie, en fait, c'est la manifestation de la vérité aux yeux de tout le monde, aux yeux de la société. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Parce que, alors d'accord, on a exigé justice. Mais avant tout, c'était un procès. Et en fait, même le procès, pour moi, pour nous, c'était évident. 5 balles visées dans le torse d'un homme, si ça mérite pas un procès minimum. En fait, non. Et le Génie, il reconstitue la scène de crime. Et quoi, c'est un boulot. C'est du boulot, quoi. C'est un vrai boulot.
Il n'est pas fini, d'ailleurs.
Non. Mais c'est en peaufinage, bientôt.
Non, mais ouais, en plus, de toute façon, tu dis ça dans le bouquin, que c'est un peu comme si Fassin, il avait fait l'enquête, un peu.
Ouais.
Et comme si le Génie, il faisait l'expertise, un peu.
C'est ça.
C'est, en fait, vous n'êtes pas des vraies victimes, donc vous n'avez pas droit ni à une enquête, ni à une expertise. En fait, Fassin et le Génie, ils ont fait le travail que, normalement, on devrait faire sur n'importe quel meurtre. En fait, ce n'était pas la police qui le commettait ou les gendarmes, quoi.
C'est ça. Ouais, et puis on n'aurait même pas, en fait, nous, famille, on ne devrait pas avoir à réclamer justice. Déjà, même là, déjà au départ, ça tourne pas rond.
Parce que ouais,
on est beaucoup trop de familles à réclamer justice, et même avant nous, c'est pas aujourd'hui, c'est il y a des décennies, il y en a, ils l'ont fait avant nous, hein. Mais pas les premières. Hein. Et on n'a pas à faire ça.
Parce que ouais, en fait, ce qu'on disait, c'est en 3 ans, ils ont en fait, vous êtes battus d'un point de vue judiciaire, comme la plupart des familles de victimes, c'est normal, quoi, de réclamer un procès. Et en fait, ils vous ont balayé très vite. Et alors que la vérité, vous la saviez déjà à la seconde en fait où la chose elle est arrivée, quoi. C'est-à-dire la vérité, en fait, c'est un combat qui continue encore aujourd'hui 5 ans plus tard. C'est pour ça que ce bouquin il existe, en fait, c'est pour que enfin la vérité elle existe. Et en fait, il a fallu Fassin qui fasse une contre-enquête, le génie qui va encore apporter. Mais en fait, la vérité, vous la savez déjà depuis le 30 mars 2017 à la seconde où ça arrive, en fait.
C'est pas pour nous la vérité. Nous, on a c'est la vérité. C'est pour c'est pour vous, c'est pour tout le monde. C'est pour Angelo, quoi. On n'a pas le droit d'avoir massacré sa vie comme ça avec des peines là de conduite sans permis, de délit de fuite, de trucs. Massacrer sa vie en prison. Et lui, non, il n'a pas le droit à un procès. Il est mort comme un chien à même pas 5 mètres de mon père. Et jamais Angelo il aurait voulu ça, quoi. Jamais Angelo il aurait voulu infliger ça à mes parents, à nous. Bah en fait, j'en veux même pas, Angelo. C'est pas lui. C'est eux. C'est eux qui ont fait ça. Et en fait, dans tout ça, même de réclamer justice, et ben, même si on n'a pas la justice, et ben, on le fait et on doit le faire. Parce que même quand on n'a pas justice, et ben, on l'a fait et on est fiers de nous. Même sans justice, et ben, on sera là quand même.
Quartier des fous, les matons ont tiré les verrous sur des tueurs, des voleurs de cachous, des flambeurs, des tatoués, des loulous. Où est la liberté? Faut la payer. Et on enterre nos corps sous le mirador. La liberté, faut la rêver quand on promène nos corps sous le mirador. C'est la nuit, mais c'est pas le Pérou. Il y a des prisons à ciel ouvert partout. Il n'y a pas d'école pour apprendre à aimer. Il y a des écoles pour apprendre à tuer. La liberté, faut la payer. Et on enterre nos corps sous le mirador. La liberté. Promène nos corps sous le mirador. Sûr qu'on a des doutes et des problèmes, du fond du trou on ne peut plus dire je t'aime. La chance ici s'appelle plus la veine. La veine ici c'est bien fini. Le cœur se bat sans bruit. C'est pas le Pérou, mais faut rêver quand on promène nos corps sous le mirador. Oui, la liberté, on l'a payé quand on enterre nos corps sous le mirador. Oui, la liberté.
Voilà, vous êtes toujours dans Les Amis d'Orwell sur Radio Libertaire. Ce soir, on parle du livre d'Aurélie Garand, Depuis qu'ils nous ont fait ça, paru aux éditions du Bout de la Ville. Et vous avez sans doute reconnu ce morceau de Johnny Hallyday qui s'appelle Mirador. C'est aussi un hommage à Angelo, car c'était un fan de Johnny. Et ce morceau reste précisément dans le sujet, parce que vous allez l'entendre, il est question de prison, d'incarcération, de détention dans cette histoire, puisqu'on a présenté Angelo comme un évadé, alors que sa sœur préfère parler de déserteur, vous l'entendrez. Donc on reprend la discussion, et c'est Manu, donc l'éditeur, qui va nous lire un passage du livre.
Donc c'est un chapitre qui s'appelle « Prise d'otage ». Il y a quelque temps, j'ai accompagné quelqu'un visiter un de ses proches à la prison de Châteaudun. Même si je l'ai attendu dehors, ça m'a rendu malade. Je ne peux plus me les voir, leurs machines de torture. J'ai parfois l'impression d'avoir passé toute ma vie là-dedans, alors que j'ai jamais été condamné par un tribunal. Mais quand c'est pas ton grand frère, c'est ton petit frère, et quand c'est pas un de tes frères, c'est ton père. Il a fait beaucoup de prison dans sa vie, mon père. La première fois, il avait 13 ans. Lui aussi a été pris très tôt dans l'engrenage. C'était les années 70, il a connu l'habit de travail des enfants prisonniers. Il m'a raconté qu'il n'avait pas de chiottes, juste des pots qu'il devait vider en promenade. Je l'imaginais comme les Dalton dans Lucky Luke. La première fois que je suis entré en prison, j'avais dans les 6 mois. Mon père faisait une petite peine, ma mère le visitait et m'emmenait avec elle. Mais mon premier vrai souvenir du Star, c'est quand j'avais 10 ans. Mon père était retombé pour une connerie, il était en détention provisoire à Blois en attendant son jugement. Je me rappelle bien de ce jour-là. En entrant, tu penses tout de suite aux images de guerre que t'as vues à la télé. Tu te retrouves enfermé avec tous les visiteurs, serrés les uns contre les autres dans un petit couloir, à attendre que le parloir d'avance termine. Une porte blindée de chaque côté, du béton armé tout autour, et une rangée de portes qui donnent sur des cases toutes pareilles. Ils te font entrer dans une des cases, celle où ton père va arriver. Il débarque d'on ne sait où. Impossible de voir, tu peux seulement deviner. Mais comme le parloir est censé être la vitrine de la tôle, vu que c'est le seul endroit où il laisse entrer du public, t'oses pas imaginer à quoi peut ressembler le reste. Le petit monsieur en bleu fait ses allers-retours, il nous surveille du coin de l'œil, puis d'un coup tu entends « Fin de parloir, messieurs ». Voilà, c'est tout. Ton père disparaît jusqu'à la semaine suivante. Il n'y avait pas de parloir spécial famille, tout le monde avait le droit aux mêmes petites cases, alors on s'entassait dedans, qu'il fasse chaud ou froid. Il y avait une table au milieu qui nous séparait du père. Une fois par mois, il nous accordait un parloir prolongé. Ça se faisait avec un hygiaphone, une vitre entre nous, et lui avec des ouvertures pour parler. Une demi-heure dans la première pièce minuscule, puis une demi-heure dans une autre pièce, quasiment la même, mais avec une vitre à trous. Un beau cadeau. Il a tapé ses 2 premières années de détention provisoire à la maison d'arrêt de Blois. C'était très dur apparemment. Une fois condamné, il a été envoyé au centre de détention de Châteauroux, en régime porte ouverte. Il pouvait circuler dans l'étage et il l'a mieux vécu. On le visitait chaque semaine avec ma mère, ma sœur et mon petit frère. Il fallait une bonne heure de route pour y aller. Comme il y avait visite le samedi et le dimanche, on partait très tôt le samedi... pour ne pas louper une seule heure de parloir. On passait la journée là, on rentrait chez nous le soir, et le lendemain, rebelote, matin et après-midi. C'était ça nos week-ends. Mon père nous travaillait au bonbon, il en ramenait en cachette, mais on n'avait pas besoin de ça. Je me posais jamais la question, c'était normal, j'allais voir mon père, ça faisait partie de la vie. Toute la semaine à l'école, le week-end à la prison. C'était peut-être pas la vie de tous les enfants, mais c'était la mienne. Angelo avait 17 ans quand mon père a commencé sa peine. Il était déjà grand, il avait une femme avec qui il venait d'avoir sa fille. Il les emmenait avec lui au parloir. À chaque fois, il se prenait un sermon, mais il revenait quand même. Ils sont forts pour ça, les voyageurs. Toujours à se prévenir les uns les autres, à se faire la morale. Fais pas de conneries, regarde où ça te mène. C'est bien les copains, les amusements, mais tu vas encore faire de la merde, te retrouver dans la galère. Angelo savait bien que le père avait raison, mais il était très loin d'imaginer comment ça allait se terminer. C'est un livre qui est marqué par la prison, et en fait, t'as une histoire qui est marquée par la prison... même c'est un peu pour ça qu'on s'est rencontrés en plus. C'est que tu dis en fait, depuis que je suis né, la prison elle existe dans ma vie.
Ouais.
Mon frère, depuis qu'il est petit, la prison elle existe dans sa vie. Et mon frère, il a passé toute sa vie en prison et il en est mort en fait.
C'est ça.
J'ai pas de questions.
Est-ce qu'il y a certaines ou certains qui ont envie de demander, de poser une question à Rudy?
Comment on peut justifier un non-lieu, tout bêtement? Enfin, moi, je veux dire, comment ils ont pu justifier un non-lieu, sous quel prétexte ils ont pris pour pas avoir de procès ni rien?
Déjà, le premier non-lieu, il n'est pas sur le L435-1, il est sur la base normale. Mais Angelo, il est déjà décrit, parce que déjà, avant d'avoir le premier non-lieu, on a eu une juge d'instruction. 6 mois après, elle est venue sur les lieux. Elle a fait placer des gendarmes, crier « halte gendarmerie » comme soi-disant ils auraient fait. Elle a bien vu que s'ils l'auraient dit, ils auraient entendu l'après-midi. Du coup, elle les a entendus l'après-midi et elle les a mis en examen. Et, en fait, le premier non-lieu en octobre 2018, je reçois ça par la poste, j'ouvre, et là, je vois non-lieu, mais ce qui me saute au visage, aux yeux, quoi, c'est qu'en fait, c'est pas signé par la même juge d'instruction. On nous a changé de juge d'instruction pendant l'été. Et c'était une nouvelle qui avait repris l'affaire. Et du coup, elle, la nouvelle, en fait, elle a même pas dû lire. Elle a suivi les réquisitions du procureur. Et ça se base sur la légitime défense.
Oui.
Le couteau. Mais comme il n'y a pas d'enquête sérieuse, et déjà, il y a modification de scène de crime, ils s'embêtent pas, même pas trop pour motiver la légitime défense.
Oui.
Ça passe à l'aise.
Il y a un truc, je sais même plus si on l'a gardé dans le bouquin ou pas, en fait, mais il y a Liénard, là,
ouais,
l'avocat des flics, là, qui a fait un bouquin il y a pas longtemps,
ouais,
où il revient sur l'affaire Garand, ce qu'il appelle l'affaire Garand. Et il dit, en fait, c'est déjà un scandale que les gendarmes ils aient été mis en examen, en fait. Pour lui, c'est déjà un scandale absolu que les gendarmes aient été mis en examen. Et même, il dit, si les gendarmes ont été mis en examen, c'était pour pacifier un peu le territoire, parce qu'ils avaient peur que se reproduisent les émeutes qui avaient eu lieu en 2010, si je me trompe pas.
Ouais, c'est ça.
Quelques années plus tôt, quoi. Du coup, en fait, tu sais, tu dis, comment c'est possible qu'eux, mais en fait, déjà pour eux, dans leur tête à eux, là, en face, c'est un scandale déjà qu'il y ait eu une mise en examen, tu vois.
Mm-hmm.
C'est déjà hyper salissant, en fait, qu'on puisse dire, vous avez exécuté un mec, peut-être dites-nous pourquoi.
Là, ça, on le voyait bien en commentaire, hein, soutien en force de l'ordre. Mm. Quand, ouais, la mise en examen, pour eux, c'était, ils ont pleuré, mais comme des madeleines, comme si qu'il y a, presque comme s'il y avait mort d'homme de leur côté, quoi. Que alors c'est juste une mise en examen, et à savoir que la mise en examen, ça leur donne aussi des bons points, parce que eux, ils ont, après, avec la mise en examen, ils ont un accès total au dossier, donc du coup ils peuvent encore mieux se défendre.
Mm-hmm.
Derrière la mise en examen, c'était sûrement pour nous calmer, ou peut-être que, je sais pas, peut-être que la juge a fait son travail. En vrai, je peux pas savoir, puisqu'elle a été remplacée dans l'été, et voilà, quoi.
Dans l'été 2017.
Ouais, c'est ça, 2017. Non, en 2018, en 2018.
C'est ça, parce qu'elle a le temps de faire cette.
Voilà, a fait l'instruction, a fait tout son truc. Voilà, il y a une juge qui fait l'instruction, et celle qui signe le non-lieu, elle n'a pas instruit le dossier. En fait.
C'est quand même hyper bizarre.
Ouais, on est devant la Cour européenne. Notre requête, elle a été reçue, donc du coup, c'est un examen. Mais ça, c'est encore un drôle de truc d'arriver à la Cour européenne des droits de l'homme, puisque quand on en arrive à ce stade-là, on est à ce qu'ils appellent, eux, enfin, nous, on y va parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'on va aller au bout, de toute façon, on ira au bout. Ce qu'ils appellent, eux, les négociations. Et en fait, quand on est en négociation avec l'État, c'est quand même fort d'en arriver là. En négociation avec l'État, nous, c'est ça en fait la réalité des choses. On est en négociation avec l'État, on n'a pas le droit de communiquer dessus.
Ouais. J'ai l'impression, en gros, ils vont avoir une amende, quoi.
Ouais,
en
c'est,
gros,
ouais,
c'est comme
c'est
ça, que ça se gère le truc, quoi.
Une amende,
ils n'auraient pas dû tuer cette personne. L'Europe va dire que l'État français n'aurait pas dû tuer cette personne, et donc va condamner l'État français à une amende qui va revenir dans la poche des victimes. Voilà.
Mais tout ça sur le dos du contribuable, quoi, en fait.
C'est par ailleurs, c'est vous qui allez payer la main.
Voilà, on va tous la payer, quoi. Bien sûr,
oui. Mais après, moi, c'est un des trucs que je trouve vachement beau dans ce que tu racontes et tout, c'est que, en fait, vous avez commencé par réclamer justice, parce que au début, il y a une injustice, tu réclames justice. En fait, petit à petit, vous avez compris que la justice, évidemment, c'était pas pour vous. En fait, t'as été très vite dans l'idée que c'était pas que l'histoire d'Angelo, en fait, au final, et que la justice française reconnaîtrait rien. Mais en fait, t'as très vite compris que l'histoire d'Angelo, c'était celle qui était déjà arrivée à des gens de ta communauté, et par ailleurs, qui était arrivée à des gens de d'autres communautés, qui étaient toutes les communautés qui étaient dans le viseur, comme tu dis dans le livre, en fait. Tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, c'était encore là, c'est parce que y a un truc qui t'a frappé, qui fait que t'as compris qu'il y avait un combat qui était quand même vachement plus vaste, qui était que, comme tu dis, en fait, faut se battre pour les vivants, en fait, les morts, ils sont morts. On les laisse en paix, eux. On essaie de pas laisser en paix les gens qui les ont tués, mais par contre, il faut continuer à se battre pour les vivants.
Bah ouais, parce que c'est vrai, dans le fond, on n'a plus rien à gagner, on n'a plus rien à perdre. En fait, j'ai eu le sentiment de renvoyer, c'est que pour les morts. À l'origine, oui, ça part en fait de la mort d'Angelo. Mais maintenant, en fait, qu'il n'y a pas de justice, on n'aura jamais de justice en France. Jamais mes parents, ils verront les yeux des assassins. Ben, en fait, on se bat pourquoi ? Ben, pour un truc tout simple, pour le droit à la vie de chacun. Et en fait, si on n'est pas capable de se battre pour le droit à la vie de chacun, qu'est-ce qu'a vaut notre propre vie à nous ? Rien, en fait. Enfin, c'est comme ça que moi, je le ressens, le truc. C'est que même sans justice, on a encore des trucs à faire. Évidemment, on va vivre. Évidemment que c'est intolérable et que non, on n'est pas d'accord à des meurtres comme ça et en plus des meurtres légales. Mmh. Alors là, on est quand même, on marche sur la tête. C'est des meurtres légales. Et ouais, se battre, c'est rendre. Bah même pas leur rendre, en fait, parce qu'ils ont toujours gardé leur dignité, leur honneur à nos yeux. C'est vrai.
Pour la mémoire collective.
Ouais, c'est ça. C'est plus, c'est un truc, c'est collectif, en fait, parce que le combat pour Angelo, même on aurait eu un procès, bah, ça nous aurait apaisé, nous, mais ça aurait rien changé. Ça aurait rien changé. Ça sert à rien que ce Angelo, il n'était pas plus légitime de vivre que demain, Pierre, Paul ou Jacques qui vont se faire tuer, en fait. Le combat, il est pour que chacun ait le droit de vivre sans crainte de mourir comme ça maintenant, mais pour les refus d'obtempérer, les passagères.
Mmh. Des passagères.
Ouais, des passagères qui se font tuer, quoi.
Et aussi mourir dans la dignité, en fait.
Mmh. Oui.
Par rapport à des questions de niveau de mort, de comment le capitalisme réduit notre temps de vie.
Ouais, parce que ça, c'est un autre truc aussi que tu dis dans le livre, en fait, c'est que toi, tu penses que ton frère, ils l'ont tué bien avant qu'il le tue, quoi.
Ouais.
En fait, la première fois qu'il est passé au tribunal, ils avaient déjà commencé à l'enterrer, en fait. C'est quand même ça qui s'est passé pour lui, tu vois.
Ouais, même avant, oui, même avant d'aller en prison.
Même avant d'aller en prison.
Angelo, nous, on est des gens du voyage, c'est ça aussi, on est des gens du voyage, mais qui voyagent pas. Mmh. On voyageait une fois, enfin, dans nos vies un peu, mais tu vois. Et on a grandi sédentaire, du coup, dans un village. Et Angelo, dans le village, il savait que c'était le fils, voilà, c'était le fils garant, de toute façon. Et puis Angelo, il était rouquin. Donc, de toute façon, il était vite fait reconnaissable. Du coup, c'était. Voilà, il avait déjà une étiquette, en fait, Angelo. Même les Schmitt, ils savaient qu'Angelo, voilà, fallait l'avoir à l'œil parce qu'il était le fils d'eux. Il était le fils de Monsieur Garant, quoi. Puis Monsieur Garant, on a fait intervenir le GIGN déjà pour trois fois rien, pour un cambriolage dans une fromagerie. Ça lui a coûté 4 ans de prison, quoi. Mmh. Et ouais, déjà, ouais, j'avais 10 ans, mon père, il s'est interpellé par le GIGN. Il y a de ça plus de 20 ans. 20 ans, avoir le GIGN, c'était vraiment pour les grosses affaires. Voilà, quoi, les grosses affaires qu'on voyait défiler à la télé, mais non. Mais là, pour une fromagerie. Le GIGN, quoi. Et puis bah là c'est pareil, quand j'étais gamine, c'est pour ça, pour Angelo, j'ai attendu, en fait, d'aller voir le journal local, La Nouvelle République, parce que je savais ce qu'ils allaient dire sur Angelo, puisque 20 ans après ils ont fait la même pour mon père. 20 ans après, mon père, il m'avait soi-disant pris en otage parce que j'étais la seule avec lui quand il s'est fait interpeller.
Ouais, le titre de l'ANR, c'était « Un forcené retient une petite fille » ou un truc comme
retranché,
ça.
Retranché, ouais.
Retranché un avec une bizarre, petite fille et tout.
Et ils disent pas que c'est ça.
Ils ont jamais dit que c'était toi, en fait. Mais...
Et du coup, bah voilà, c'était l'affaire, elle était déjà vendue, quoi. Les GIGN, un forcené, en plus une fillette de 10 ans en otage. C'est ça qu'il a payé mon père les 4 ans, c'est pas les fromages de chèvre, hein, c'est le tapage médiatique à côté. Donc.
Ouais, bah là, le chapitre que je lisais tout à l'heure, en fait, l'histoire qu'il avait emmené en prison, c'était
ça, ouais. Hein.
Retranché avec une fillette de 10 ans, ouais. En fait, c'était sa fille, elle avait demandé est-ce que je peux rester avec toi, papa.
Ouais.
C'était ça.
C'était juste ça.
Et il y a aussi un chapitre où, dans ce livre, tu parles beaucoup du début de la lutte et de comment tu rencontres d'autres familles. Et je me dis que ça peut peut-être être cool que tu en parles un petit peu. Et comme ça, on peut inviter au repas de demain midi.
Ouais.
À la condition.
Eh ben, je rencontre les autres familles il y a 10 ans. Non, il n'y a pas 10 ans. Il y a 5 ans, mais c'était la commémoration pour la mine. 10 ans. Pour la mine, et apparemment, c'est là.
Non, mais du coup, ton frère se fait tuer en mars. Toi, t'es à la marche pour la mine en juin, en fait.
C'est ça.
Deux mois et quelques plus tard. Quoi.
Et là, je me retrouve à la banderole et je rencontre Fatou, Ramata, Awa, Farid, le frère de Wissam. Et on se connaît pas, hein, mais... On se connaît pas, ils connaissent pas Angelo, j'ai pas connu leur frère. Mais en même temps, c'est tellement fort. En fait, ils pleurent Angelo, je pleure leur frère et. Bon, on pleure on pleure pas que de tristesse, même dans le livre, hein, on rigole aussi. On n'est pas que triste, parce que, la tristesse, et on se donne de la force. Au sein du réseau, en fait, on se donne de la force. Et on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Et on sait qu'on est sur un chemin tous ensemble. On est tous quelque part sur ce chemin. Mais sur ce chemin-là, et ben, on s'aide. Parce qu'il y en a, ils sont passés là avant nous. Comme pour la CEDH, la cassation. Ramata. Et même psychologiquement, quoi, c'est pas facile, hein. De lutter, déjà, on n'est pas préparé à ça. On est touché, en fait, quand on nous arrache le cœur, en fait, on nous arrache nos vies. En fait, on est devenu quelqu'un d'autre, et on ne sait pas qui encore, mais on se découvre ensemble, et on s'apprend, et on est fort, et puis on s'aime aussi. Et c'est même, en fait, c'est triste dans le fond, ce qui est triste. C'est qu'on soit... on est beaucoup trop. On est beaucoup trop parce que derrière chaque force, mine de rien, eh ben, c'est une vie qui a été enlevée. Et au-delà, ouais, il y a une vie, il y a une famille détruite, il y a des enfants qui pleurent, il y a des parents qui... Des fois, on se regarde dans les yeux avec nos parents et on détourne du regard parce qu'on sait à quoi on pense. Lui, il est plus là. Et qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, on peut rien faire. Pour le faire revenir, on peut rien faire. Mais par contre, on peut faire quelque chose pour qu'il existe toujours. Et que personne vive ça. Personne, j'accepte pas. Moi, je vis, en fait, on vit ça. Mais je sais pas, en fait, où tu diras, moi aussi, si ça vous fait ça. Le plus dur, en fait, c'est de voir... De sentir le mal des autres. Pourtant, on a le mal à l'intérieur de nous. Hein. Mais de sentir le mal des autres, c'est insupportable. Et ça, c'est ça qui nous donne de la force. Et on va continuer. Et on est là.
Il y a plein de gens du réseau d'entraide Vérité et Justice qui sont là ce soir. Et c'est le soir de la sortie du livre d'Aurélie. Et c'est trop cool. Alors, il y a un chapitre qui en parle. Je ne sais pas si on a le temps, si on continue. Si...
Je lis le petit bout.
On a lancé avec d'autres le réseau d'entraide Vérité et Justice où se retrouvent aujourd'hui des dizaines de groupes qui se battent contre la violence d'État. Surtout des proches de personnes tuées par les Schmitt ou par la prison, mais aussi des blessés et des mutilés. Dès que tu as besoin d'un conseil ou que tu as une galère, tu sais que tu peux compter sur le réseau et les soutiens. on s'épaule, psychologiquement ou matériellement. On discute entre personnes concernées pour écrire des textes, réfléchir à comment se faire entendre, organiser des marches, des ateliers d'autodéfense juridique, des projections, des rencontres. On n'est pas toujours d'accord, mais on se respecte. On se comprend, on ne se juge pas, on s'apprend. On sait qu'on est toutes et tous sur un même chemin, mais pas aux mêmes étapes judiciaires, psychologiques, personnelles. On s'autorise à pleurer d'émotion ou de rire. C'est comme une famille, en vrai de vrai. Dès qu'on peut, on se bouge aux quatre coins de la France pour soutenir les événements organisés par les uns et les autres ou soutenir une nouvelle famille à qui ils ont arraché quelqu'un. On s'aide à ne pas rester seul dans notre chagrin et notre colère. On sait qu'on doit marcher ensemble si on veut que le carnage s'arrête.
Voilà. Ouais.
Voilà, donc c'était une émission un peu plus courte que d'habitude. Le livre d'Aurélie Garand, je le rappelle, est paru donc aux éditions du Bout de la Ville. Depuis qu'ils nous ont fait ça, si vous voulez aller plus loin à propos de ce livre et d'Aurélie, de son combat, elle était invitée dans l'émission L'Envolée sur Fréquence Paris Pluriel. Et le podcast est à réécouter donc sur le site l'envolée.net. Je rappelle enfin que nos archives sont toujours sur le site Sourier Info, Sourier EZ, et on mettra sur la page consacrée à ce livre d'Aurélie Garand d'autres ressources comme cette fameuse vidéo qu'elle a diffusée le 2 avril 2017, donc deux jours après la mort d'Angelo, une vidéo dont on a parlé lors de cette présentation que vous venez d'écouter. Voilà, donc on se retrouve dans 2 semaines. Merci encore à Henrik pour le coup de main et bonne fin de soirée sur Radio Libertaire.
In New Orleans, they pull the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one. My
justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.
Sono le 22:30.
Radio Libertaire. Enfin, nous sommes de retour à l'antenne en direct. Moi et ma bande, ou ma bande et moi, c'est mieux dans ce sens-là. Donc nous sommes... chat dans la gorge. Nous sommes de retour à l'antenne de la station préférée de nos auditeurs, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Et comme je vous le disais, je suis en compagnie de Serge. Ah ben j'ai oublié carrément de monter tous les micros.
Voilà. Okay, bonsoir as... Henrik.
Ça fait... Attendez. Normalement, c'est ça. Alors, ça fait une heure que je suis assis dans ce fauteuil. J'ai carrément oublié de monter les micros. Ok, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, bonsoir.
Yves.
Ouais, tu m'entends?
C'est lequel, le micro?
Le bleu.
Le bleu, ok. C'était pas le bon non plus. Là, c'est mieux, je crois. Ouais.
On va voir.
Oui.
Oui, Yves et Guy,
c'est le jaune en face.
Ok, super.
Voilà, très bien.
Donc, comme je disais, nous avons été absents pendant 15 jours. C'est normal, je prenais des vacances au bord de la mer, d'ailleurs.
Ah,
voilà, c'est bien illustré. Nous sommes donc de retour sur l'antenne. Radio Libertaire, c'est là en FM. C'est aussi... j'arrive pas à m'asseoir correctement aujourd'hui. Je suis à moitié affalé. Avec de la chaleur. C'est aussi sur internet, mais vous le savez déjà, radio-libertaire.org et anarchiste.info. C'est les deux sites où vous pouvez écouter le streaming et où vous pouvez récupérer ou écouter les émissions un autre jour quand ça vous chante. Voilà, donc on est un peu écrasé par la chaleur, quoique là on est bien. Mais sinon, ça va à peu près. Donc, on va tenter de faire une émission ce soir. Ben voilà, comme d'habitude. Moi, je suis très content de ça.
On est aussi content que toi.
Ouais, ben moi, je me disais, c'est bizarre. Ça fait 15 jours que j'ai pas fait de radio. Je me sentais bizarre, je savais pas trop. Et puis là, non, bon, en fait, c'est cool, quoi. Alors, on va commencer par... attendez, je baisse. C'est quoi, ça, ce potard? Ah oui, pardon, c'est là où j'étais. On va commencer par ce qu'on faisait il y a longtemps, quand on était avec Guy, c'est-à-dire qu'on va faire, Guy, les annonces de la radio, de la librairie Publico, vite fait.
Vite fait, oui, vite fait, urgent, parce que c'est samedi-dimanche.
Ben voilà, alors, samedi-dimanche.
Voilà, ouais.
Alors, attention.
Ouais.
Samedi et dimanche, le 9 et le 10.
C'est
ce week-end.
Demain après-demain. Voilà.
Donc, de 11h à 19h, c'est,
exact, oui.
C'est le retour de Publico qui réouvre, donc, ou qui a réouvert, je ne sais plus trop.
Qui a réouvert déjà il y a deux semaines. Oui.
Ok, ben c'est la fête de rentrée.
C'est la fête de rentrée,
tu
as raison.
Il y a plein de livres, plein de bouquins. Moi, voilà. À chaque fois que j'y vais, je repars avec un tas de trucs.
Oui.
Donc, c'est ce week-end, c'est rue Amelot, voilà,
545, pardon. 545, rue Amelot.
Ok, d'accord.
C'est le siège de la radio.
Oh, et je là, glisse dans le...
Publico.
Je glisse sur mon siège. Ah, je colle à moitié.
Et puis, pas mal de choses brocantées, hein, donc qui sont intéressantes. Hein.
Ah, voilà. Brocanté, tu dis brocanté, toi.
Ouais, brocanté, ouais.
Ouais, bah, j'en ai fait des brocantes, moi, putain.
Ah, bah oui, puis c'est chouette, hein, de la braderie. Des braderies, genre braderie, on va dire. Hein,
j'ai fait un tas de brocantes, j'ai acheté un tas de disques.
Oh là, en vacances, là?
Ouais.
Ah oui, t'es tombé dans des brocantes, ouais, déjà,
ouais,
aussi. Hein,
bah, des,
oui,
brocantes.
Oh, c'est agréable, ça, ouais.
Des disquaires, enfin, ça a été la débauche totale.
Mais il y a de l'or, hein?
Ah, il y a des trucs sympas,
ah,
ouais.
Ouais,
alors, mon micro est archi fort, je vais le baisser.
Il y a des trucs bien.
Donc, on passe au jeudi 14 à 19h. Il y a une rencontre. Moi, j'ai chaud quand même, malgré le ventilo. On passe au jeudi 14, il y a une rencontre débat, c'est cultiver les communs. Alors, commun au pluriel, commun comme commun, une sortie du capitalisme par la terre de Tanguy Martin. Et je commence à faire de...
Tanguy Marty, c'est pas mal aussi.
Ouais, de Tanguy Marty.
Ouais. Tanguy Martin, effectivement.
Ok, le dimanche 17, cette fois-ci à 16h, c'est une rencontre dédicace. Célie Bajarano, Justa ou la force du destin, dimanche 17, 16h. Le dimanche d'après, 24 septembre, toujours 16h, c'est une projection de débat. Bon pied, bon œil et toute sa tête, handicap et politique. Et puis enfin, le samedi 30 septembre, 16h, c'est la fameuse Monica Jornet qui nous présentera en lecture ses poèmes militants intitulés « Feuilles volantes ». Elle a réussi à les rattraper, tu vois. Voilà. Et donc, c'est le samedi 30. Voilà, c'est pour les rendez-vous de la librairie Publico. Ça, c'est fait. Est-ce qu'on met un morceau de musique ou est-ce qu'on commence direct?
Ben, c'est pas moi qui décide. Bah
c'est prendrait... vous voulez, parce que pour commencer ça, moi j'ai un truc qui s'appelle des livres comme S'il en pleuvait. C'est ce que tu as dit un peu qui allait être.
Oui.
Qu'on allait trouver à la librairie. Voilà.
Okay, bah,
en vente, bien sûr, mais c'est pas ce qui sera avantageux, malgré tout. Vas-y, c'est pas ce qui est recanté. Ouais.
Lance-toi.
Alors, donc, je vais le faire tout de suite. Voilà, des livres comme S'il en pleuvait. Littérature et anarchie ont toujours fait bon ménage, même en ces temps où l'on ouvre plus volontiers son ordinateur ou son smartphone qu'un livre. L'intérêt des anarchistes pour l'écrit sur papier ne se dément pas. Exemple flagrant, ceux et celles qui fréquentent notre librairie fédérale, Publico, tu viens d'en parler, peuvent le constater. Si vous restez plus d'une semaine sans vous y rendre, eh bien vous remarquez que la table réservée aux nouveautés est sans cesse renouvelée, les nouvelles publications chassant les anciennes, le problème n'étant pas le nombre de parutions, mais la place disponible pour les présenter. C'est vrai. Alors, la littérature anarchiste ou consacrée à l'anarchisme a rarement été aussi florissante qu'à notre époque. Ben oui, c'est paradoxal. Alors, romans, biographies, autobiographies, des BD, poésie, des contes pour enfants, etc. Autant d'ouvrages qui sont publiés pour le plus grand bonheur des visiteurs réguliers ou occasionnels de notre librairie. Des livres toujours et encore dont nous rendons compte à travers les recensions publiées chaque mois dans notre mensuel Le Monde Libertaire ou sur Radio Libertaire ou dans des émissions comme par exemple Au fil des pages. Alors pas étonnant qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le mouvement libertaire se soit reconstruit autour d'une librairie diffusant les écrits des penseurs et théoriciens libertaires du 19e, puis rapidement des auteurs plus contemporains. Voilà, c'était la librairie qui s'appelait toujours Publico et qui se trouvait rue Ternaux. Pour ceux qui ont connu, 3 rue Ternaux. Voilà. Alors les livres, eh bien aujourd'hui, des auteurs sont régulièrement invités dans nos locaux pour présenter leurs ouvrages. Nos locaux, car il n'y a pas que notre librairie fédérale à Paris, mais il y a d'autres librairies en région, les Codéa, c'est à Besançon, Marseille, Lens. Et quand il n'y a pas de librairie anarchiste, à proprement parler, ce sont les tables de presse participant à différents événements, pas forcément libertaires, mais qui prennent le relais. C'est ainsi qu'il nous a été possible, il y a quelque temps, de présenter, durant 2 semaines, une exposition d'affiches et de livres dans un lycée de Besançon, avec l'aide de la librairie L'Autodidacte, du groupe local de la Fédération anarchiste. Et puis sur Paris, eh bien le groupe Salvador Segui a régulièrement organisé des présentations de livres en présence de leur auteur. Et parmi les plus récentes de ces animations, Le peuple au drapeau noir avec Sylvain Boulouk, Amiante et mensonges avec Virginie Dupérou, Salvador Segui, guérilla anticapitaliste contre le franquisme avec des traducteurs de cet ouvrage paru en Espagne. Reconquista, oui, avec Serge Le Grandval. Puis un oubli sans nom du même auteur. Tout récemment, L'Arrangement avec Gilles Verdet. Et puis le 17, bientôt, donc, dans 10 jours, là, le 17 septembre, Justa ou la force du destin, avec l'autrice qui est Célie Bajarano. Alors pour les éditions, eh bien pour ne rester que dans les maisons d'édition publiant des auteurs libertaires, là aussi, hein, ça se bouscule au portillon. On peut citer Nada, Atelier de création libertaire, Libertalia, Édition libertaire contre littérature, Noir et Rouge, qui bientôt va recommencer une de ses ses ventes de brocante, tout simplement, là, dans le 12e arrondissement. Hein. Et puis Libertalia, Édition libertaire, contre littérature, je l'ai dit tout à l'heure, Noir et Rouge, voilà. Alors sans oublier, bien sûr, les propres éditions de notre FA, les éditions du Monde libertaire elles-mêmes. Alors nous avons ainsi publié nombre d'ouvrages ces dernières années, et surtout d'autres sont apparaître dans les prochains mois, on va dire. Voilà, La décroissance libertaire, c'est de Jean-Pierre Tertré. Digitaliser pour mieux contrôler, c'est de Philippe, peut-être, PH, Godard. La pieuvre nucléaire, le réseau Macno. Café Combat, c'est un livre paru en espagnol sur la vie de Laureano Serrada, dont la traduction française est en cours de finition. Ben, vous voyez, il y a des choses engagées. Alors. Et puis, des manuscrits arrivent de toutes parts, comme cette biographie de l'anarchiste espagnol Amparo Poche, première femme diplômée en médecine dans l'Espagne des années 30. C'est un texte dû à la plume de Antonina Rodrigo, et dont la traduction en français est pratiquement achevée. Éditeur à choisir. La place manque ici pour répertorier eh bien, tous les projets en cours. C'est pas grave, on les recevra quand ils vont se présenter. Mais, comme vous vous en doutez, en matière de publication d'ouvrages, se référant à l'idéal anarchiste, l'avenir s'annonce plutôt radieux. Bref, le rayon nouveauté n'est pas prêt à se dégarnir. Pour notre plus grand plaisir, bien sûr. Et puis, alors, eh bien, vous soyez prêts pour la rentrée littéraire. Spécial Anarchie, qui s'annonce sous les meilleurs auspices. C'est un texte de Ramon Pino, du groupe anarchiste Salvador Segui. Je crois qu'on sait, tout là, je pense que c'est assez précis.
J'ai oublié de préciser que vous étiez à l'écoute de The Post Non Radio Show, qui est le titre de cette émission, et que je m'appelle Henrik. Voilà, et Serge, on évite de se gratter le nez pendant les pauses musicales.
M'en fous, il n'y a pas de caméra, c'est de la radio.
Je te vois, je te vois manger tes crottes de nez.
Ah, je les mange pas, non. Non, non.
Ah, ok, d'accord. Ok, on revient. Je reviens. Donc, vous donnez la parole dans ma grande mansuétude.
Oh, il est gentil. Je crois qu'il est aimable aujourd'hui.
Oui, est-ce que t'as bien le bleu, Yves ?
Oui, 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 parce que s'il oui, se rapproche. Ah, oui, ça ne rapproche pas de. Alors, voilà, il était un petit peu loin du micro.
D'accord, ok, c'est quand même, j'ai des variations. Non, ok, j'attends, je vais peut-être le.
À mon âge, cher ami, on est loin de tout.
Je ne peux même pas rire.
Pas le droit.
C'est de l'autodérision.
C'est pas mal quand même.
Donc, qui veut prendre la parole ?
Bon, on va donner la parole à Yves.
Ah oui, oui, oui.
Parce qu'il y a pas mal d'articles qu'il a relevés, apparemment.
Ah, oui, bah, c'est un peu le problème. De toute manière, je ne sais pas par où commencer. Parce qu'il y a, ne serait-ce que dans un article du Monde, daté du vendredi 8 septembre.
Par le glyphosate.
Pris au hasard. Je vois aide alimentaire, alerte sur tout un secteur. Bon, on en a entendu parler. Ensuite, il y a le logement.
En gros,
un article de Véronique Béda, qui est la PDG du groupe immobilier Next City.
Yves,
donc,
en
elle
gros,
s'aperçoit que l'État n'a rien fait pour construire et que les gens sont dans la merde.
Yves,
tout le monde sait. Ouais.
Est-ce que je peux résumer ça en quelques mots ? Tout est en train de craquer.
Et même les glaciers. Alors, je me
demande. Oh merde, non, pas les glaces.
J'ai toujours le même jour, il y a un article. Les glaciers sont nos châteaux d'eau à la belle image et nous risquons de les perdre.
Ah, ça, c'est ah tu veux dire les glaciers, les montagnes.
Ça devient embêtant. Vu la chaleur, tu pensais que j'allais parler.
Des vrais glaciers.
Le permafrost.
Alors, je crois que tu parlais des glaces à lécher.
Comme il fait très chaud, on pourrait commencer par les glaciers, oui.
On aurait dû acheter des glaces, tiens, merde. Voilà. Je suis quand même chaud, là.
Ça donne soif.
Donc, c'est une glaciologue qui s'appelle Heidi Sevestre et qui est membre du Conseil de l'Arctique et d'un programme de Alors, l'Arctique, pour ceux qui sont un peu comme moi, bref, c'est au nord, alors que l'Antarctique, c'est au sud.
Mais okay, elle n'a rien fait, Ségolène, pendant qu'elle était ambassadrice.
Non, mais je n'ai pas envie de m'occuper de
des pôles.
Elle n'en souffre pas, elle. Ouais.
Elle fait partie d'un programme de surveillance et d'évaluation des pôles qui s'appelle l'AMAP, en anglais Arctic Monitoring and Assessment Program. Elle a également reçu la médaille Shackleton pour la protection des régions polaires. Elle est également l'autrice de Sentinelle du climat chez HarperCollins, 240 pages, et même mettre 19 euros. Allez, payez-vous ça. Voilà, et donc elle fait un article de 2 pages, c'est un entretien, où elle résume un peu la situation, et ma foi, on a envie de dire à Bernard Arnault, puisqu'il a des sous, vous ne pourriez pas surélever Paris d'une soixantaine de mètres, parce que ça nous éviterait d'être inondés, parce que Paris se situe actuellement à 35 mètres en moyenne de hauteur. Hein. J'ai regardé dans l'arrondissement où j'habite, que je ne citerai pas.
Tu vas être noyé.
Discret, les hauteurs, c'est entre 24 et 60 mètres. Et 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'altitude moyenne à Paris, donc 35 mètres, ils font des moyennes pondérées. Tout le monde sait ce que c'est des moyennes pondérées.
Et non, on ne sait pas.
Ça, c'est le prof qui parle.
Ouais, donc quand même. Et donc, il est dit dans cet article, je vais anticiper, mais il est dit dans cet article que si toutes les glaces de l'Antarctique fondent, ce qui va arriver si on fait rien, la mer, le niveau de l'eau augmente de, attendez que je retrouve, 58 mètres.
Oh,
à Paris,
c'est sympa. Alors si on ajoute, si on ajoute le Groenland qui fait trois fois la taille de la France, ça fait 7 mètres. Et le point de bascule, c'est autour de 1,5 degré pour le Groenland et l'Antarctique de l'Ouest. Bon, enfin bref. Et donc, il n'y a pas que ça. Y a... Bon, ça, c'est les trucs qui risquent de se passer dans un petit moment quand même. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on est engagé sur une pente glissante, on n'arrive plus, comme l'illustre un certain nombre de chutes dans les Alpes actuellement, à se retenir aux branches. Oui. Et donc... que changent les fontes accélérées des glaces dans l'équilibre climatique global de la planète, on lui demande. Eh bien, elle dit les glaces sont capitales. On y pense rarement parce que c'est tellement lointain, dans les très hautes montagnes, dans les régions polaires. Mais notre quotidien et notre futur dépendent de la qualité de ces glaces. Elle parle des glaciers, des calottes polaires, du Groenland, de l'Antarctique, mais aussi de toutes les autres glaces, le permafrost, qui devrait s'appeler le pergélisol en français. Le sol gelé en permanence, que les Russes sont très contents de voir dégeler d'ailleurs, y compris la fonte des glaces en Arctique. Ils sont enchantés parce qu'en fait ça libère une voie de passage pour les bateaux. J'ai lu comme ça un bouquin d'Isabelle Autissier avec j'ai oublié son partenaire, il est pourtant important, où elle raconte les enjeux politiques et économiques de ces trajets, donc qui permettraient un trajet très court entre la Chine finalement et puis l'Europe en passant par le Nord. Alors, il y a les glaciers, donc il y a aussi les précipitations, comme la neige. Plus il y a de neige, plus les glaciers sont contents. Et moins il y a de neige, plus ils rétrécissent. Il y a une première raison à l'importance des glaces, c'est le rôle qu'elles jouent dans la stabilisation du climat. 10% des surfaces émergées sur Terre sont recouvertes de glace. Et on a du mal à se présenter ce que ça veut dire, mais ces surfaces blanches agissent un peu comme un miroir. Bon, vous avez compris, ça réfléchit les rayons du soleil en direction de l'espace, donc ça maintient ces espaces et ces montagnes et ces régions polaires froides. Le fait d'avoir des pôles froids et des hautes montagnes froides stabilise le climat partout sur Terre.
Le climat,
oui. Et quand on parle du fait que l'Arctique réagit très vite au dérèglement climatique et que l'Arctique se réchauffe, ça perturbe le climat jusqu'à chez nous, en France. Et donc, conséquence, les glaces qui sont notre plus grande réserve d'eau potable, on pense au glacier de l'Himalaya, on parle vraiment d'un château d'eau, ce sont des milliards de personnes qui dépendent de l'eau des glaciers tout au long de l'année, surtout en période de mousson. Il y a évidemment les Alpes, on a tous vu l'image de la mer de glace qui pratiquement n'existe plus, quoi. Plus des stations de ski qui décident de fermer, au moment d'ailleurs où ils créent un BTS pour les gens qui travaillent dans les stations de sport d'hiver, d'ailleurs, ça fait un peu rigoler le contretemps. Donc il y a des glaciers comme le Mont Blanc, certaines régions des Alpes, il va falloir s'habituer à voir ces glaciers rétrécir et disparaître. Donc d'ici la fin du siècle, dans les 70 à 90 prochaines années, si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre, malgré tous les efforts qui seront mis en place, toutes les annonces, toutes les stratégies des différents pays, aujourd'hui les concentrations de CO2 continuent à augmenter dans l'atmosphère et les glaciers réagissent très vite à ça. Et si on continue ainsi, on va perdre nos châteaux d'eau, leurs ressources d'eau potable dans les Alpes d'ici la fin du siècle, qui ont un impact important pendant l'été. Et en fait, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une sorte de point de non-retour. C'est-à-dire que même si les politiques climatiques étaient sur la bonne trajectoire, il pourrait bien être déjà trop tard pour corriger le tir. Elle dit donc dans cette interview qu'elle pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pour l'instant, nos observations sur le terrain sont pires que les pires modèles de prévision de nos modèles mathématiques. Les choses sont en train vraiment de s'accélérer au point que le rythme de notre science n'est pas assez rapide. Pourquoi parle-t-on beaucoup de points de bascule en ce moment? Parce que les calottes polaires ont un point de bascule que l'on arrive de mieux en mieux à cerner. Si par exemple le Groenland, qui fait trois fois la taille de la France, venait à perdre sa glace, on aurait une montée du niveau des mers d'à peu près 7 mètres et pour l'Antarctique, on serait sur 58 mètres. Et ce point de bascule est autour de 1,5 degré pour le Groenland et l'Antarctique de l'Ouest. Bon, j'en ai déjà parlé un petit peu, donc j'abrège.